L'envolée au procès de l'évasion de Moulin en février 2009, qui se déroule donc du 2 au 19 avril à la cour d'assises de Lyon. Aujourd'hui, nous vous relatons l'après-midi du lundi 15 avril. Alors ça, on va signaler tout de suite, peut-être quand même que du coup, on ne sait pas pourquoi exactement on peut toujours se dire que c'est à cause de ce qui s'est passé ce week-end. D'ailleurs, on fait un spécial big up, une belle dédicace à Redouane Faïd. Là, je vais dire qu'il vient de leur mettre un camouflet quand même. Joli, joli, joli ce garçon, il n'y a pas, on peut le dire comme ça. Il est entré dans la légende là. Partir tout seul de l'intérieur, même s'il y avait quelqu'un qui l'attendait dehors. Faire sauter trois ou quatre portes de trois ou quatre grilles de la prison avant de faire sauter le portail extérieur et puis prendre des matons en otage, réussir à sortir, lâcher les quatre matons au bout d'une heure, tous,
Zéro
et
violence.
s'envoler, toujours pas retrouvé. Bonne route et bravo encore. Bon, enfin donc, tout ça pour quand même rappeler que on ne sait pas si c'est à cause de ça, mais la fouille était un peu plus serrée aujourd'hui pour rentrer au palais de justice de Lyon. Et bon, sinon ça peut être aussi simplement un changement d'équipe, de toute façon, comme et à chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe, ils sont pleins de zèle, et puis après, la demi-journée suivante, c'est terminé, ils baissent un petit peu. Voilà, mais enfin, ça reste quand même bien surveillé, hein, de toute façon. Hein. C'est jamais sans un passage au portique, sans qu'on vide les poches, etc., etc.
Après, petite précision, en fait, on va faire le vendredi après-midi et le lundi après-midi. Parce que, en fait, on va faire un bloc sur toutes les parties civiles. Les
Bah
parties civiles,
oui.
elles ont commencé vendredi après-midi, elles sont finies cet après-midi. Parce que le président, qui a l'air un peu malade d'ailleurs, miskine,
C'est vrai qu'on
il
l'a
m'a
pas
fait.
trop entendu
Ouais,
aujourd'hui,
il
t'as
était un
raison. Elle était pas dans
peu.
son assiette,
Ouais. Après,
le
il n'avait pas
gros
de boulot
là.
à faire, de fait, puisqu'on faisait le boulot à sa place. Mais.
Ouais, non mais quand même.
Ouais, il était un peu mou. Du coup, voilà, on fait un genre de gros bloc sur les parties civiles. Ça va être un peu compliqué même à comprendre, j'imagine, parce que il y a énormément de parties civiles et donc il y a énormément d'avocats qui se séparent un peu le travail, là, comme ça. Du coup, c'est quand même. On va plutôt essayer de faire un genre de bloc et on va s'attarder sur un lascar en particulier qui est notre ennemi autoproclamé, à savoir Monsieur Winter, le défenseur de l'UFAP et de sa petite famille, de sa petite communauté, de ses petits comme il les appelle même. Voilà.
Donc le vendredi après-midi, ça a été les premiers conducteurs ou conductrices de bagnole qui se sont fait soit chourer, soit simplement chourer la voiture, soit qui ont dû monter dedans pour les accompagner. Et donc là, alors tu disais Manu tout à l'heure que enfin, le gros thème de cet après-midi, là, ça a été d'essayer de casser l'image de l'évadé romantique.
Ouais, c'est ça, on a eu une petite thématique comme ça un peu là qui. Du coup, c'était vraiment. La plupart, c'était les avocats des otages. Des otages, des citoyens otages, quoi. C'est-à-dire des gens des gens de la rue, quoi, qui n'ont rien à voir avec l'administration pénitentiaire. Et du coup, je sais pas, c'est un peu comme si les deux ou trois avocats qu'on a vus, ils avaient vachement à cœur de casser cette figure romantique comme ça, de l'évader, et de montrer à quel point, malgré tout ce qu'on pouvait entendre de la part de la défense, on n'avait pas du tout affaire à des gens qui se révoltaient contre la prison, qui supportaient pas leur peine, ou qui je sais pas quoi, mais des gens qui étaient, même je crois, il y en a un qui a dit ça, dans un genre d'aveuglement autiste, qui fait que tu penses qu'à ta petite condition à toi, et que tu réfléchis pas au mal que tu peux faire aux autres dans leur vie. Machin.
Ça, c'est effectivement le premier. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que, on peut le dire tout de suite, c'est là-dessus que finira Winter, donc qui a clos les plaidoiries cet après-midi, en disant exactement la même chose. Hein, prisonnier, que d'accord, ok, on vous comprend, ça c'est bien beau, on a tout entendu, mais vous aussi, pensez aux autres. Ne pensez pas qu'à vous, pensez aux. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Ah, ouais. Et je dis ça parce que autant là, le vendredi après-midi, c'était chiant. Hein. C'était super, enfin, c'était pas, il y avait rien quoi. Ils étaient mauvais, Ils en ont trop fait sur le côté victime.
Non, mais, mais même moi, là, je suis à la place des gens, il y a des trucs qui sont ça te révulse, en fait. Tu peux pas être défendu comme ça. Il y a un avocat qui a osé dire, Madame, je sais plus quoi, a été et sera toujours une victime, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, on a essentialisé ces gens dans un moment qu'ils ont vécu. Comme il disait Omar, je t'ai piqué ta R19, moi je t'ai pas bousillé ta vie, en fait.
Ouais.
Et les avocats des parties civiles, ils sont là pour essentialiser, exactement comme on essentialise un coupable, en fait, ils essentialisent une victime, quoi. Quelqu'un, même il a dit, cet avocat-là, il a dit, je vais vous raconter la trajectoire d'une victime, moi je vais vous raconter la vie d'une victime, quoi. Du coup, c'est comme s'il allait retourner à la maternelle pour raconter comment cette dame est devenue victime un jour dans sa vie d'un vol de R19, ce qui est quand même.
D'ailleurs, il y a même mieux. Hein. Enfin, c'est que ils ont même retourné. Il y a un avocat qui a dit exactement le contraire de son client,
Ça sent, ouais.
qui avait été, lui, pour lui, là, il a été pris en otage avec son petit-fils. Ça s'est super bien passé. Voilà. Et là, l'avocat a juste dit exactement le contraire. A
On a
dit,
eu
a
la même
regardé
aujourd'hui.
tous les signes. Évidemment, sa manière sympathique de présenter les évadés, c'est uniquement parce qu'il a peur, etc., etc. Enfin, tout était inversé, quoi.
On a eu la même aujourd'hui là sur Monsieur Dubois. Donc Monsieur Dubois, c'est ce chef d'entreprise qui a activé sa clause de sauvegarde. C'est le héros qui a acheté ses clés de l'autre côté de l'autoroute là. Et lui, c'est pareil, en fait, il a fait une déposition très tranquille, en fait. Il a présenté Christophe comme quelqu'un de chouette avec qui il a pu discuter, machin. Il a fait une déclaration, il se l'a raconté vachement, mais il n'a pas du tout enfoncé les accusés dans l'histoire et tout. Son avocat aujourd'hui, il s'est servi de ça pour montrer à quel point Christophe était doué en manipulation, parce qu'il avait pu engrainer le type dans sa propre histoire et tout ça. Et donc, si Dubois est pas trop dur avec Christophe à la barre, ça montre bien à quel point il a été traumatisé par cette histoire, à quel point il s'est fait je sais plus conditionner, je crois, il a employé le mot
Ouais.
conditionnement comme ça. Il a été conditionné par Monsieur Kider à tel point que même à la barre, il ne dépose pas contre lui. Alors que si tu es victime dans une histoire, tu es complètement dépossédé de ce truc. Et l'avocat, il va faire de toi une victime, point à la ligne, quoi, y a pas.
Mais effectivement, lui, ce qui est important quand même, c'est que à la fin de sa plaidoirie, il pose la question de la longueur des peines et il demande si tout ça n'est pas venu quand même d'une peine trop lourde initiale prononcée. Là, il pense à Christophe. Et c'est ce qu'avait répété plusieurs fois les pères, qu'à chaque fois, on disait, oui, mais s'il est là, c'est pas pour rien. Oui, mais c'est pas pour rien peut-être, mais voilà, mais c'est parce que la peine est beaucoup trop lourde. Donc lui, il a reposé quand même cette question-là. De toute façon, ils n'ont pas pu l'éviter. Tellement Christophe l'a répété, et Ripper aussi. Et cette question-là, elle est inévitable. Ils pouvaient pas l'ignorer totalement dans leur plaidoirie. Ça n'avait
Ouais,
pas de sens.
c'est un truc qu'on peut dire, ça, c'est que l'essentiel du boulot des parties civiles, là, toutes celles qu'on plaidait, hein, après, il y a des petites différences entre chacun et tout, mais l'essentiel de leur boulot, quand même, c'est de. Attends, j'ai plus ce que je voulais dire.
Tu pensais à. Là, je venais de dire que c'est pas grave, c'est bien, ça prouve, toi, c'est vraiment un show.
On sort de là,
C'est, ah
on sort de
ouais.
là.
Non, j'étais en train de dire qu'ils ne pouvaient pas éviter cette question de la longueur des peines.
Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. L'essentiel de leur boulot, en fait, c'est de couper l'herbe sous le pied de la défense. C'est-à-dire, en fait, il y a même un type qui dit ça, les parties civiles, elles sont pas là pour jouer au loto, tout ça, machin. Bon, ça, voilà, ils disent tout de suite qu'ils sont pas là pour demander de l'argent et surtout pour qu'on reconnaisse leur statut de victime, c'est ça leur grand jeu et tout. Mais en fait, on voit très bien à quoi ils travaillent. Ils travaillent à couper l'herbe sous le pied de la défense. Et donc, tous, je pense, que ce soit du point de vue, les évadés, c'est pas une figure romantique, machin, faut pas raconter que c'est ça. Donc il y en a qui disent ça, il y en a qui disent le coupable là-dedans, c'est pas l'administration pénitentiaire, c'est pas les conditions d'incarcération, c'est pas les matons, c'est pas patipata. Ils ont à peu près démonté tous les angles qu'on sait qu'on va prendre, puisque c'est les seuls angles, c'est les seuls trucs qui racontent la réalité vraie, c'est que quand tu mets 30 ans de prison à quelqu'un, faut pas s'étonner qu'ils finissent par arriver à certaines extrémités pour s'en sortir, quoi. Donc tous, ils ont quand même commencé leur plaidoirie là-dessus, quoi.
Sauf ceux encore, il y en a eu un dans l'après-midi là, Vardon il s'appelle, et lui il fait partie de ceux qu'on plaidait la victimisation, point final. Lui il défendait Kavala et Schwertz. Schwertz, c'est, si vous avez oublié, c'est le maton qui a tiré à l'aveugle.
C'est le courageux, là.
C'est le courageux, super courageux là, qui a tiré à l'aveugle. risquant la vie de ses collègues, parce qu'il ne savait même pas sur quoi il tirait. Puis après, quand il a entendu un coup de feu, qu'il pouvait pas le toucher, hein, il était derrière une porte blindée, il était planqué là comme un pétoquilé derrière une autre porte et on n'a plus entendu parler de lui. Et aujourd'hui, c'est lui qui s'était constitué partie civile en demandant une tentative d'homicide volontaire. Et donc son avocat, il a repris la description apocalyptique des faits, c'est-à-dire l'état de la centrale complètement dévastée, les mouvements de panique, la dangerosité des explosifs en reprenant des termes répétés 3 fois, dit tout lentement, des expertises, genre, toi, l'expertise, c'était oui, l'explosif, ça explose, tu vois. Ça, c'était à peu près ça le niveau. Merci, mais lui, il a dit tellement, tu vois, explose, comme ça. Explose, j'ai bien dit. Enfin, donc, et puis, lui aussi, là, c'est contrairement aux autres, en fait, c'était le plus évidemment répressif dans sa plaidoirie. Lui, en loose day, demander une peine pour les filles, puisque lui, il a parlé d'association de malfaiteurs, effectivement, en masquant ces termes, il n'a pas employé ce terme-là, mais en le masquant sous chaîne d'union.
Chaîne d'union, ouais, c'est
C'est
ça.
beau ça, la chaîne d'union, un nouveau
Il a
terme.
répété ça, cinq ou six fois de suite. C'était sa petite trouvaille, c'était sa petite trouvaille sémantique, là, comme ça.
Et tu vois, en disant que, voilà, que madame, que Sylvie ou que Nadia et Eugène, faisaient nécessairement partie de cette chaîne d'union parce que sans eux, il n'y avait rien qui était possible, quoi. Et donc voilà, il a encore répété, j'ai noté, hein, tout ça aurait pu finir en carnage, etc. Et quand même important, c'est que tous les matons qu'ont défendu les gens de. Non, pas tous les matons, pardon. Tous les avocats qui ont défendu justement des matons, sont tous revenus aussi sur le rapport de l'inspection de l'administration pénitentiaire qui est venue après. Et donc il y a un rapport qui a descendu, enfin, je veux dire, qui a pointé du doigt la réaction et tout ce qui s'était passé pendant cette évasion. Ça partait de la présence du couteau des deux surveillants. Jusqu'à l'attitude des directeurs. Et en fait, donc lui aussi, il dit, mais il faut pas, on s'en fout de ce rapport, c'est des gens qui ne sont pas sur le terrain, c'est des gens qui ne savent pas, c'est des gens qui racontent n'importe quoi. Voilà. Et lui, il a dit, contre eux, moi, je choisis la communauté des surveillants. Le mec, il aimait bien les termes, en désignant donc toutes les parties civiles qui étaient sur le banc. Voilà, voilà.
Ça, c'est un truc qu'on avait bien senti déjà la semaine dernière, on en avait parlé un peu. Ça se sent bien qu'il y a un truc qui est pas net comme ça dans cette histoire entre Cavala.
Ah,
Donc, c'est Cavala qui est en dessous et l'autre qui est au-dessus. Non, c'est
c'est
l'inverse.
Cavala le grand chef.
C'est Cavala le grand chef,
Oui,
Fenaillon le directeur de la section machin, et ensuite les surveillants en dessous. Et on sent bien qu'à chaque niveau hiérarchique comme ça, il y a un truc de on se renvoie le bébé. Nous, on avait bien senti la semaine dernière que les matons, en fait, comment ils parlent de Christophe et de la prise d'otage et machin, ils sont très. Leur avocat, il appelle ça honnête, nous on appelle ça, je sais pas, oui, admettons que c'est une honnêteté. Ils ont raconté tel que ça s'est passé, ils ont eu affaire à des gens déterminés, mais pas spécialement, je sais pas comment dire, ils se sont pas fait entendre dire tout l'après-midi qu'ils allaient se faire buter, ils se sont fait entendre dire qu'ils allaient pas mourir si tout se passait bien et tout ça. Il y a un genre de renvoi d'ascenseur permanent entre les différents niveaux hiérarchiques et tout le monde se fait lâcher en fait, c'est ça le plan, quoi. Du coup, les avocats aujourd'hui, ils sont obligés de dire même que c'est la grande hiérarchie, alors on sait même plus qui c'est en fait la grande hiérarchie, mais c'est les niveaux hiérarchiques les plus élevés qui ont lâché tous les autres en dessous, quoi, c'est ça en fait.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est celui-là d'avocat, le Vardan ou le suivant, qui a redécrit encore une fois la scène justement de dialogue. Je crois que c'est lui. Mais
Ouais.
extrêmement rapidement, tu vois, il l'a mimé, il a mis en scène. Et dans sa mise en scène des coups de téléphone entre les uns et les autres, on n'entend pas bien les ordres, en parlant vite comme ça, on comprenait très très bien qu'il y avait eu une grosse erreur de compréhension, un
C'est
gros
certain.
quiproquo. Parce qu'il a même dit à un moment, ça y est, la police est dehors. Là, l'avocat, quand il racontait le truc, il parlait pas donc de tireur d'élite, mais à un moment, il a dit, ah, ça y est, la police est dehors, donc on peut ouvrir, allez ouvrir, machin, patra, et voilà. Et puis alors, donc, c'est le même Vardan qui ramène la mère de Sylvie dans son camp.
Lui, il a une idée, lui. Lui,
Ouais.
il s'est dit, tiens, je vais ramener des parties civiles qui normalement sont de l'autre côté et tout. Il a été imité par tous ses potes. Après, en plus, tous les autres, après, ils ont cité la maman de Sylvie ou la sœur de Sylvie ou je sais pas quoi, là. Donc lui, il a décidé que cette famille-là aussi était victime de Christophe Kider et Omar Tepelhadj, en fait. Voilà. Donc ce monsieur a été bouleversé par la déposition de la mère de Sylvie, qu'il estime lui aussi victime de monsieur Kider et monsieur Tepelhadj, machin. Au même titre que ce qu'il appelle, parce que ça c'est quand même une jolie perle, quoi, la communauté des surveillants, celle qui a pour seule idée de préserver la vie de ses frères de douleur. Paye tes frères de douleur.
C'est ça. Laisse la fraternité voilée,
Ouais,
qu'il
c'est
soit
ça.
donc, plutôt du corporatisme, ce sera déjà bien
C'est
assez.
ça.
Et puis aussi, autre élément, c'est quand même lui aussi qui a dit qu'il fallait retenir la tentative d'homicide volontaire sur Schwerz. Et ce qui est très très important, parce que ça, mine de rien, ça fait grimper la peine relativement lourdement, puisque du coup, Christophe, avec ça, il risque perpète. Hein. C'est pas 20 ans, c'est perpète, s'il garde ça. Et je dis ça parce qu'on va voir du coup que ça a permis de faire le beau encore une fois à Winter, juste après, parce qu'à partir du moment. Voilà, enfin, il restait donc, il plaidait la tentative d'homicide. Alors qu'il y avait vraiment eu, même pendant les débats, discussion autour de ça.
Ouais. C'est lui aussi, donc lui a fini cette plaidoirie splendide sur la communauté des surveillants en demandant aux jurés, qui ne sont pas, comme Monsieur Ripper a osé le dire en début d'audience, qui ne sont pas que des petits jurés comme ça, parce que Ripper avait dû dire un truc genre, bon bah vous êtes que des jurés de toute façon, hein, vous n'allez pas avoir des masses de marge de manœuvre, et tout lui dit, non non, vous n'êtes pas du tout des jurés, vous êtes des juges, vous êtes tous des juges comme ça. Vous avez tous ce pouvoir de juge au même titre que le juge, machin, et vous êtes là pour reconnaître un statut de victime à cette grande communauté, pour les aider à sortir de la nuit, quoi. Et il a fini sa plaidoirie comme ça, pour sortir de la nuit et tout. Il dit ça devant des mecs qui ont 30 ans de prison à faire, enfin,
Ouais.
tranquillement, quoi. Et là-dessus, on va passer à Cormier.
Ouais.
Alors Cormier, il est un peu connu dans la région, si j'ai bien compris, hein, parce que c'est quelqu'un, c'est un avocat qui est censé être plutôt du côté des détenus, comme ça. Nous, par exemple, on sait qu'il a déposé une plainte pour quelqu'un qu'on connaissait en détention contre l'administration pénitentiaire et tout. Et là, lui, il se retrouve un peu. Alors, lui, il défend Fénaillon, donc l'autre directeur, là. Et lui, il est un peu le cul entre deux chaises, parce que d'habitude, il passe pour un genre d'avocat de gauche humaniste, machin. Et là, il se retrouve du côté des parties civiles à défendre un directeur de prison qui. Et en fait, il a fait l'essentiel du début, en tout cas le début de sa plaidoirie, c'était vraiment ça, c'est-à-dire bon bah moi j'ai vraiment l'habitude d'être de l'autre côté, mais là en fait je suis tombé sur quelqu'un de tellement bien, je suis tombé sur un directeur tellement, il disait ça, là, qu'il a la passion de son travail, mais la passion pas comme un garde-chiourme, il a vraiment une passion pour les détenus et pour essayer de leur rendre la vie plus facile et tout ça machin, il nous a fait un truc complètement schizophrène en fait. Il a redit encore ce truc. Il avait vu que de la dignité chez toutes les parties civiles, voilà, que tout le monde avait eu donc cette dignité exemplaire. Lui aussi, il incorpore la famille de Sylvie dans la même histoire. Donc la famille de Sylvie, le directeur de prison, les matons, tout ça, c'est la même chose, quoi. Et puis voilà, bon, il rend hommage à ce directeur qui a fait ce qu'il fallait faire. Hein. Et alors après, il nous a fait un truc. Bon, je pense, encore à nous, voilà, on est suffisamment un tout petit peu allumé de cette histoire pour pas vomir dans la salle, mais il s'est quand même permis de faire référence à l'enfant de Sylvie et Christophe.
Ah ouais,
Ça,
c'est trop fort.
c'était monstrueux. Donc pour la faire en cours, il a dit, bon, je pense que Monsieur Kider a un espoir, et si Monsieur Kider a un espoir, il doit prendre exemple sur cette petite. Qui a failli mourir, qui a failli mourir, donc c'est la petite de Sylvie qui est enfant prématuré. Et l'histoire dit qu'elle a perdu les os au cours d'un parloir.
Ah, c'est sûr, à
C'est
Florian
ça,
Roger,
voilà.
ouais.
Et que donc cet enfant prématuré a dû se faire embarquer très vite dans un hosto puis dans un autre machin hop et qu'il a failli mourir sur le moment. Puis que cet enfant prématuré a gardé des séquelles de cette naissance et s'est mis à marcher tardivement, vers 3-4 ans. Du coup, lui, il dit ça donc à Christophe qui est enfermé, quoi. Et il dit, prenez exemple là-dessus, quoi. vous avez l'air fini comme ça, vous avez l'air de devoir mourir en prison, vous avez l'air de devoir terminer vos jours et tout, mais en fait, il reste un petit espoir. Si vous vous inspirez de cet enfant comme ça, peut-être vous allez voir la lumière.
Ouais.
C'est monstrueux.
Alors, lui, il a chauffé le terrain pour Winter, en fait.
Il a fait un petit coup de chauffe.
Ouais, un petit coup de chauffe, parce qu'ils employaient les mêmes termes. Ça a été leur gros truc, toujours d'être entre les deux. Et lui, il pouvait se permettre de le faire, vu que c'est l'avocat, c'était l'avocat des prisonniers. Donc, il sait ce que c'est que qu'être en détention, tout ça, c'est ce qu'il disait. Et donc, en insistant vachement sur l'espoir, sur le fait que, voilà, un jour, on finit sa peine, je sais pas trop quoi, enfin, machin. Même si c'est au bout de 40 ans, l'important c'est de construire. Un petit peu comme il avait fait le directeur de tôle. Non, il ne faut pas parler de vie, faut pas parler de temps comme ça, il faut parler de moments de vie, mais pas de temps. Enfin, t'hallucines complètement. Ces mecs-là, tu les mets 15 jours en placard, ils se pendent, hein, c'est sûr. Enfin bon. Et donc, ça veut aussi dire, on insiste là-dessus, que ce mec-là, là, le maître Cormier, là, qui sévit. Beaucoup en Rhône-Alpes, hein, parce qu'il y a aussi bien à Saint-Étienne, qu'à Chalon, qu'à Lyon, tout ça, bah lui, il faut l'éviter. Hein. Il est clairement de l'autre côté. On ne peut pas manger comme ça tous les râteliers.
Bah, faut choisir.
Ça ne se fait pas, c'est trop facile. Un coup chez les matons, un coup chez les prisonniers, là où il y a à piocher, quoi. Merci. Mmh. Non, non, c'est...
Enfin, on peut dire ça vite fait quand même que lui... Comme les autres, mais lui, il l'a fait plus que les autres. Il s'est quand même un petit peu servi de l'évasion du week-end aussi, là, quand même. Ils ont ramené ça à un moment donné, quand même. Ils ont ramené... À chaque fois, ils ramenaient ça sur le mode de la guerre, en plus. Je crois tous, ils ont employé ce truc de scène de guerre, là, comme ça. Donc lui, il a fait un petit truc là-dessus. Je m'attendais à faire un break ce week-end, et en fait, il y a deux nouvelles qui sont tombées en même temps. Elle était belle, celle-là. Il y a deux nouvelles qui sont tombées en même temps. Alors, j'ai appris l'évasion, comme ça. Donc l'évasion. Et d'un autre côté, j'ai lu un tweet ou je sais
non,
pas
non,
quel
c'est pas un tweet, je l'ai lu moi aussi, c'est une lettre publique à adresser la médecin de chef de Fresnes, qui a adressé à Taubira, dans laquelle elle dit que c'est vraiment pas possible, qu'il faut libérer un tas de gens qui sont soit beaucoup, enfin, qui n'ont rien à faire en prison, soit qui sont... en fin de vie, etc. Elle a refait un état des lieux de ça. Et donc, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, on enferme vraiment, c'est n'importe quoi, quoi. Mmh. Donc, elle pousse une gueulante là-dessus en tant que médecin.
Voilà. Et lui, il a vu un signe là-dedans, parce que c'est Monsieur Signe. Hein. Il voit des signes dans les enfants qui naissent prématurés, des signes dans les tweets qu'il reçoit le week-end et tout. Et là, il a vu un signe de, en fait, on peut jamais en sortir, quoi. En fait, il y a d'un côté ces actes de guerre horribles et de l'autre côté ces conditions de détention difficiles, parce qu'en fait il n'est pas non plus sur des trucs trop durs et tout. Et messieurs et mesdames les jurés, vous êtes comme moi pris entre deux eaux. Il fait le mec schizo, hein, en plus il raconte ça de lui-même et tout quand même. Hein. Mais de fait, t'es pas schizo, mec, t'as choisi, hein, faut arrêter. Hein.
Et après on a eu Winter. Alors Winter, c'est un vieux renard. Hein.
C'était l'hiver de la journée, quoi.
Ouais. Il connaît bien la musique. Il se fait énormément de procès pour l'UFAP et tout ce qui est maton, puisque c'est le monsieur avocat de l'UFAP. Il n'y a pas un procès où il y a l'administration pénitentiaire en France où il ne soit pas là, je crois.
Mais c'est lui qui voulait être parti civil au nom de l'UFAP,
ouais,
pour l'évasion de Ferrand. Voilà.
Déjà, ouais, à chaque fois, il la tente. Il avait déjà tenté à Fresnes, hein, avec Christophe à l'époque. Et du coup,
comme on lui refuse, il le fait quand même, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, il défend, je sais pas, 4 ou 5 matons, mais en fait, on a vu un meeting de l'UFAP pendant...
Ah, c'était incroyable.
Pendant une heure et demie, quoi.
Incroyable. Alors, non, il a commencé... Non, en plus, non, il est fort, quand même.
Ouais, on va la faire bien pour lui, parce qu'il est bien.
Non, il est fort, il est dangereux, quoi, je veux dire, par là. Parce que, autant les autres, à part Cormier l'avant-dernier qui a pu marquer quelques points, les autres ils étaient trop grossiers, vraiment trop grossiers, trop caricaturaux sur la souffrance, etc. Vu ce qu'avaient dit toutes les personnes directement avant, c'était pas crédible. Mais là, lui il l'a joué fine, hein, vraiment très très fine. Et je pense que ouais, du coup ça va parce que. Il va falloir réfléchir pour les avocats de la défense parce qu'il a sabordé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments en les en sautant en l'air comme ça. Genre, enfin bon, il a même lui aussi il a dit je sais que maître, enfin, ils ont essayé d'attaquer Ripper en loose day, il n'était pas là. Hein. Ouais, trop facile, évidemment. Enfin bon, c'est pas grave, ça. Le gros, il les attend, c'est sûr. Et donc, le Winter a commencé par dire du genre comme ça, à quoi bon plaider? À quoi bon plaider? Je vais répéter encore les mêmes choses, je vais répéter ce que vous avez déjà entendu. Voilà. Et donc, il dit, bon, je vais quand même dire quelques petites choses et je voudrais commencer par dire que nous, on est les premiers à savoir que la vie en prison, c'est quelque chose de très très dur. Et qu'encore plus en centrale, il dit la centrale, il a dit, il suffit d'aller à Clairvaux un week-end le matin quand il pleut, pour avant même de rentrer à l'intérieur de l'enceinte pénitentiaire, pour être déprimé. Ces centrales, c'est des endroits pesants, lourds, déprimants. Voilà. Et dit, et ça crée chez. Ah oui, alors il a tout analysé. Il dit même l'incarcération trop longue, eh ben, ça finit par créer chez le prisonnier une telle distanciation qu'il ne sait plus pourquoi il est là. Donc en fait, ça n'a plus aucun effet, qu'un rapport. Avec l'acte, il n'y a plus de relation entre la peine et l'acte qui est puni. Ben voilà, il nous a servi, il a été comme ça, les trop longues peines, c'est un problème. On peut pas dire à quelqu'un qu'il sortira pas avant 50 ans. C'est pas possible. C'est une erreur que de faire ça. Et parce que dans ce cas-là, la personne, si elle est encore vivante, évidemment, et on le ferait tous, n'importe qui le ferait, on ne pense qu'à l'évasion. Voilà. Donc il a vraiment. Il a vraiment resté là-dessus, puis il a dit ce qu'il faut laisser aux prisonniers, et ça c'est vraiment le truc mortel, c'est le piège le pire. C'est-à-dire ce qu'il faut leur laisser, c'est l'espoir. Le truc le plus dégueulasse qui soit, l'espoir. C'est-à-dire que tu t'installes dans une perspective, ouais.
Dans l'espoir et des douches individuelles.
Ah oui, alors ça, c'est oui, ça, à chaque fois,
Il a osé, il a osé
t'as
faire
raison,
ça.
t'as raison, à ce moment-là, qui dit, ouais, il leur faut de l'espoir. Il leur faut des douches
Il s'est
individuelles
tourné vers Christophe pour dire ça,
ouais,
le
et des
bonhomme.
conditions dignes. Toi, attends, le mec,
Ouais, on peut juste dire ça, c'est un mec qui dit nous, hein. C'est pas un mec qui plaide en disant mes clients ou qui dit je sais pas quoi, c'est un mec qui dit nous. C'est-à-dire, lui, il parle en tant que représentant de la communauté, comme il a dit son collègue avant, des surveillants, quoi. Il a fait toute sa plaidoirie en disant nous, comme ça. Donc nous, on est contre les peines de sûreté, par exemple. C'est un
voilà.
avocat qui dit ça, quoi.
Ouais. Et il le dit, donc, il le dit d'un point de vue complètement deux petits surveillants, ouais, c'est-à-dire vraiment deux bases, quoi. Au début, en fait, son truc, c'était de dire, ok, nous, on est comme vous, on est contre cette justice qui est en train d'assassiner des gens. Voilà. Mais là où on n'est plus d'accord, c'est quand c'est nous qui sommes visés.
C'est
Parce
ça.
que du coup, il y a une erreur sur la cible. Nous, on n'y est pour rien. Nous, les surveillants, on n'y est pour rien. C'est pas nous qui sommes responsables de tout ça. Et parce que nous, on fait tout ce qu'on peut. Nous aussi, on est en détention. Nous aussi, je peux vous assurer que bien sûr, il y a des exceptions. On sait, il y a des surveillants qui sont corrompus. On sait, il y en a quelques-uns qui outrepassent leurs droits, etc. Voilà. Mais pour la grande majorité, en tout cas pour tous ceux qui sont là, eh ben c'est pas ça, eux ils font preuve d'une grande humanité, tralala. Tra
Mais c'est ça le truc qui est terrible, c'est que donc il a coupé l'herbe sous le pied, il a commencé comme ça et tout,
ouais.
et il a fini par dire, donc en fait il dit, j'admets qu'il y a un combat à mener, il le dit comme ça même, il y a un combat à mener et tout, mais s'il y a un combat à mener, c'est pas les surveillants la cible, quoi. C'est-à-dire, faut pas se tromper de cible, et s'il y a un combat à mener, c'est pas les surveillants la cible. Il a pas dit c'était quoi la cible, hein, quand même, mais en tout cas c'est pas les surveillants. Et du coup, si on veut que la prison devienne plus humaine, il faut considérer les surveillants eux aussi comme des humains. Tu sais, il a fait ce retournement complètement ouf là, qui est de dire tout le monde considère les surveillants comme des instruments, en fait. Et donc il y a les prisonniers d'un côté qui les considèrent comme des obstacles à leur évasion, et il y a l'administration pénitentiaire de l'autre côté qui les considère comme des instruments comme des instruments de coercition, je sais pas quoi, comme une caméra, comme une porte blindée, comme un fusil, comme machin et tout. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ramène l'humanité là-dedans, quoi. C'est-à-dire que si vous considérez les surveillants comme des humains, les surveillants peuvent vous considérer comme des humains, et il y aura plus d'évasion, et il y aura plus de problèmes et tout. Il était vraiment sur une rhétorique.
Et puis après, et là-dessus, il dit, nous, on est d'accord avec vous. Bien sûr, nous aussi, on est contre l'administration pénitentiaire. On dit, parce qu'on est bien obligé de remarquer que par moment, on est encore au Moyen-Âge. Et nous, on se bat pour l'amélioration de tout ça. Et seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, dit-il, c'est qu'à chaque fois qu'on demande l'amélioration des conditions de détention, il faut parallèlement demander l'amélioration des conditions de travail. C'est-à-dire, chaque fois qu'on obtient des douches, il faut que nous, on puisse avoir des fusils en détention. C'est ça que ça signifie.
C'est pour ça qu'on dit que c'est un ennemi autoproclamé et qu'en plus, c'est un ennemi dangereux. C'est que il dit évidemment exactement le contraire de nous, mais il sait tellement qu'il dit le contraire de nous que lui, il dit, c'est absurde de penser que les intérêts des prisonniers et les intérêts des surveillants sont contradictoires. Nous, on passe notre temps à dire que bien sûr, les intérêts des surveillants et les intérêts des prisonniers, c'est pas les mêmes, et qu'il n'y aura jamais de jonction possible entre ces deux intérêts-là. Et lui, il dit, c'est absurde de penser comme ça.
Et donc il redonne l'exemple des deux surveillants, des deux matons de base, ceux qui ont été pris en otage, Arnaud et Alex, comme il dit. Il dit, eux, ils attendent toujours qu'on leur dise, vous vous êtes bien comportés. Et là, ils citent des exemples, ils disent, voilà, il y a des gens pour qui, ils ont été ostracisés, il n'y a pas de médaille, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune récompense, il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a rien du tout. Et c'est leur cas, et c'est complètement anormal, etc.
Ouais, on rappelle que ces deux surveillants là, c'est ceux qui avaient les deux qui ont été pris en otage là, c'est ceux qui voulaient se faire une petite raclette le dimanche midi tous les deux et tout. Et donc ils avaient fait rentrer un opinel, alors ça discute à savoir si c'est un opinel ou un la gueule, mais on ne saura jamais le fin mot de l'histoire et tout. Mais en tout cas ils ont fait rentrer un couteau en détention et le rapport de l'AP dit c'est de leur faute, ils ont fait rentrer un opinel en détention. Quoi.
Ouais. Et lui il a dit c'est un torchon.
C'est un torchon ce truc.
Un torchon. Et en fait, il nous a fait un vrai discours syndical. Et c'était difficile de ne pas y voir une préparation à ce qui va peut-être suivre après Séquenin, parce qu'il y a forcément, à Séquenin, il y a eu un truc qui s'est passé qui n'est pas bien clair pour que Redouane puisse avoir un pistolet et des explosifs en détention. Là, voilà, il faut quand même que ça rentre le flingue. Et il n'y a pas toujours. Enfin bon, là, c'est. Et donc c'est très très possible qu'il y ait des matons qui se fassent attaquer, donc syndicalement ils sont déjà en train de préparer la réponse. Mm-hmm. Voilà.
Sur ce truc de faut trouver l'équilibre hyper précaire, hyper compliqué à trouver entre la sécurité et l'humanité.
Ouais.
Voilà. Et il le dit lui-même hein, que le dimanche après-midi, faut que ce soit une soupape, sinon là, il a dit à un moment un truc quasiment comme ça. De si on laisse pas que le dimanche après-midi il se passe à peu près cool et tout, la prison elle va sauter au bout d'un moment. On est obligé en fait de faire cette soupape et du coup de lâcher la bride. Il dit même ça, je crois, à un moment. Il faut lâcher la bride. Quoi.
C'est lui qui a terminé la journée.
Ouais, c'est lui qui termine. Ouais.
Alors attends, parce qu'avant de terminer, toi, donc là il a continué. C'est là il est malin, donc il est parti donc de on sait ce que c'est que les conditions de détention, mais c'est pas nous les responsables. Et puis ensuite, surtout, du coup on ne peut pas admettre qu'on nous prenne pour cible, qu'on nous prenne en otage et de risquer notre vie. Voilà, il en est arrivé là. Et c'est là qu'il a répété que les faits étaient d'une extrême gravité. Là il a attaqué. Il a essayé de couper l'herbe sous les pieds de Ripper en disant Ripper va vous dire qu'il n'y a pas mort d'homme. Alors bien sûr il n'y a pas mort d'homme, mais il n'y a pas mort d'homme, c'est peut-être pas grâce à Christophe Kidder qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est parce qu'ils ont été courageux, c'est parce qu'il y a un coup de chance, etc. Et là il regarde Christophe, il dit regardez vous par exemple, en 95, moi je vous crois moi, je sais que c'est vrai. Parce que ça se lit, c'est vrai, quand vous le dites, mais que vous ne vouliez pas tuer et que c'est un accident, mais n'empêche qu'il y a eu un mort. Donc, c'est pas le fait que vous ne vouliez pas tuer, à partir du moment où vous avez une arme, qui fait qu'il n'y a pas de mort. Donc, du coup, il renverse le truc. Et ça, par exemple, ça, c'est vraiment le truc...
95, c'est l'histoire qui vaut 30 ans à Christophe.
Ouais. Et voilà, donc du coup, à ce moment-là, il a redéveloppé tout ce truc-là. Là, il a repris sur l'idée de la victime, etc., sur ce que c'est que d'être pris en otage, en noircissant les traits, en disant d'accord, ok, même c'est vrai, ça s'est bien passé, ce qu'on raconte, mais on ne sait jamais comment ça va finir. Il y a toujours quelque chose qui peut faire déraper. Voilà. Et pour lui, donc, ce qui est super important, c'est condamner. Alors, là aussi, il est très très fort. Il dit, il faut condamner ce type d'acte. Il dit, quand je dis ça, je dis pas condamner Monsieur Kider. C'est l'acte qu'il faut condamner.
Ouais.
Le truc de fou, quoi.
Et puis il a remis un petit truc là, ça aussi c'est un truc bien bâtard quand même. Il a dit que en fait ce type d'acte là qui est gravissime et tout, et du coup il l'a ramené donc ce type d'acte c'est une évasion. Il l'a ramené au truc de ce week-end
Ouais.
là, il l'a ramené à l'évasion de Ferrara, et il a dit en fait ce type d'acte ça dessert tout le monde quoi. C'est un petit truc que tu fais toi pour ta petite gueule et tout, mais en fait ça dessert tout le monde, à savoir les prisonniers et les surveillants, parce que pour les prisonniers, ça fait qu'il y a de la sécurité en plus qui se rajoute et que ça leur rend la vie de plus en plus invivable, machin. Et pour les surveillants, ça leur bousille leur vie aussi, parce que du coup, ils sont obligés de faire preuve de moins d'humanité, ils sont obligés de machin, donc ça durcit les rapports en détention. Et en plus, par exemple, il a pris l'exemple de Ferrara, là, il a dit, et en plus maintenant, ils sont obligés de se mettre des gilets pare-balles de 15 kilos pour aller au taf et tout. Donc voilà, Et toujours avec cette même idée complètement farfelue là, que les intérêts des prisonniers et les intérêts des surveillants, c'est les mêmes, quoi. Et
Ouais.
que si tout le monde se parlait et se considérait
Voilà,
comme
son
des
gros truc,
humains.
c'est de travailler dans la sérénité, quoi.
Voilà.
D'accepter sa peine, ça c'est ce qu'il va développer à la fin.
Bon, enfin, je sais pas, alors que. On sait très bien que ce type d'acte, en fait, c'est un truc qui donne la patate à trop de gens qui sont à l'intérieur.
Bah, bien
Ce
sûr.
week-end, on sait que ça a fait la fête, en fait, dans le fond.
Bah
Tout le monde
ouais.
est trop content de ce type d'acte, faut arrêter le truc.
Et là, il dit que. Et donc, c'est là aussi où il a dit que qu'ils étaient plutôt. Enfin, tout en gardant que c'était super grave, qu'il y avait quand même eu le tir, etc. Mais qu'ils n'étaient pas complètement attachés à mort au fait de conserver la tentative d'homicide sur M. Canoënche. Ça, on l'a raconté. Canoënche, c'est un des matons qui était dans le chemin de ronde, qui pointait un fusil à lunettes sur Christophe. Et Christophe lui a tiré 2 balles nettement à côté de lui, pour lui faire baisser son arme. Et donc comme ça tient pas vraiment la route, il l'a expliqué lui-même, hein. Il a dit parce que juste 2 minutes avant, il avait un autre maton en joue, et il avait le surveillant, un des 2 surveillants pris en otage, à qui il venait de dire, et ça c'est selon les dires du surveillant lui-même, qui disait, je veux pas mourir, et Christophe lui venait de lui dire, écoute, j'ai vraiment pas l'intention de te tuer, et ça serait, voilà ce qu'il dit Winter, il dit, on voit pas pourquoi il dirait ça. Et puis 20 secondes après, aller en tuer un autre, ça tient pas la route. Donc il a parfaitement conscience que vu l'avancée du dossier, ce truc-là, il va pas tenir. Mais il s'en fout, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils ont l'autre inculpation sur Schwerz, qui celle-là, ils l'ont pas fait sauter. Même pas dans la proposition, quoi.
Ouais, puis il faut rappeler que l'avocat de Schwerz, il a dit non seulement qu'il y avait bien une tentative d'homicide, mais il a dit aussi qu'il y avait une chaîne d'union qui menait à cette tentative d'homicide. C'est-à-dire que le type, il a déjà fait tout le taf. Il a mis la tentative de meurtre et l'association de malfaiteurs sur l'histoire.
Ouais. Là, ensuite, il a pendant 5 minutes, il a défoncé Baeb. C'est vrai, là, il lui a dit, écoutez, nous, de toute façon, voilà, vous allez prendre la peine, vous allez prendre, mais pour nous, vous racontez un gros pipeau, et ça change rien. Vous auriez mieux fait de nous dire la vérité. Ça aurait permis à tout le monde de tout comprendre. Pour vous, ça aurait rien changé. Et puis voilà. Et là, du coup, Bab, il a commencé. Enfin, il a montré des gros, gros, gros signes d'énervement vis-à-vis de Winter. Puisqu'il a dit, vous manipulez votre pauvre compagne, etc.
Ouais.
Il y avait une bonne petite couche. Et puis voilà. Puis il a terminé sur le truc. Enfin, il a eu sur 2 points. Il a dit, tout en rappelant, hein, que la question très importante quand on est une victime, et c'est, il se demande, moi, il nous a décrit une scène complètement invraisemblable. Il était en bas de chez lui, il revenait de faire ses courses. Il y a un mec qui voulait lui prendre un peu de monnaie ou une clope, je sais plus, qui l'a menacé avec un couteau. Ça a duré 20 secondes. Il a eu. Ah non, c'était pas en bas de chez lui, justement, c'était à un autre endroit. Il a eu peur, mais bon, il a réussi à oublier tout ça. Il a dit, mais si ça m'est arrivé en bas de chez moi, je serai obligé d'y penser tous les jours, etc. C'est ça, le choc, machin. Et puis il leur a dit, j'espère que vous vous rendez compte du gâchis. Du gâchis que vous avez, ça a créé, tout ça, pour 36 heures de liberté.
Ouais.
Du nombre de vies marquées, tralala. Toujours, évidemment, à chaque fois, en retournant le problème, en disant pas que le gâchis, c'est pas celui-là.
Oui, il a fait même un truc pire, il a dit... Moi, pendant tout le procès, je me suis dit un seul truc, c'est quel gâchis, et tout.
Ouais.
Et après, j'ai essayé de me relever de ce sentiment, comme ça, et je me suis dit, mais en fait, derrière le gâchis, il y a de l'espoir, quoi. Et là, il nous a chié son truc d'espoir.
Ouais.
Il a même dit ce truc qui est quand même complètement aberrant, c'est... Et un jour, Monsieur Kider va sortir. Alors, bien sûr, pas demain matin, plutôt en 2054...
Ouais.
Un truc comme ça et tout. Mais ce jour-là, nous serons aux côtés de Monsieur Kider pour appuyer sa demande de libération. Quoi.
Le truc
en 2054, l'autre, il a 50 piges, il sera mort à ce moment-là, tu sais, mais il est capable de dire ça là-bas et tout.
Et tout ça en disant à Christophe, il faut que... La leçon de morale, quoi. Et c'est là qu'il lui a dit qu'il faut penser aux autres. Arrêtez de ne penser qu'à vous, même ça si on comprend. On comprend que vous pensiez d'abord à vous. Mais il faut que vous appreniez à penser aux vôtres, etc.
Ouais.
À partir de ce moment-là, il pourra y avoir réconciliation et la sérénité. Et là, vous pourrez aborder tout ça dans des bonnes conditions. Ça veut dire couche-toi par terre et laisse-toi crever tout seul, quoi. Et vraiment, vraiment, il a fait une... Enfin bon, il a quand même demandé, mais là non plus, il ne prend pas beaucoup de risques. Il s'en fout parce que c'est ce qu'il avait déjà fait pour la demande de mise en liberté de Sylvie pendant les débats. Et il sait très très bien que le parquet va s'y opposer. Donc, mais il a quand même dit, on peut le dire. Qu'il souhaitait absolument pas que les deux femmes restent en prison et qu'il espérait qu'elles allaient sortir à l'issue de ce procès et retrouver leurs enfants pour vivre à côté d'eux. Voilà, donc ça c'était plutôt le truc, voilà, le seul truc où on pouvait se dire bon, ça peut jouer un peu. Tout le reste il l'a fait à l'envers.
Mais propre, il a fait ça bien.
Et super propre, super propre. Et comme ça crescendo, et en fait il les a assassinés, parce qu'il a dit aux jurés, vous pouvez les condamner en toute sérénité.
Mm.
Voilà, la sympathie qui dégage, c'est ça qu'il leur a dit en fait, il faut en profiter pour qu'ils comprennent tout ce qui s'est passé, en disant, j'ai jamais vu des débats d'une aussi grande richesse, j'ai jamais vu des parties plaignantes venir témoigner avec autant de sincérité, dit lui aussi était super content de ce procès, il a remercié tous les matons avec leurs prénoms un par un.
Il a même fini par dire à Christophe et Omar, parce qu'il leur parlait à eux directement, vous avez de la chance d'avoir ces gens comme victimes.
Ouais. Ouais. Non, il a retourné le truc. Le vieux. Non mais encore une fois, lui c'est un vieux renard.
Ouais, enfin, bon.
Il en a fait beaucoup des procès de ce type-là, donc au bout d'un moment. Bah toi, t'as une panoplie de stratégies et tu dis, bon, et puis donc ça veut dire que t'es capable de conjuguer plusieurs éléments, machin, tac, tac, tu construis, quoi. Et puis là, il a dû réfléchir, il a dit, je vais la coller comme ça. Et il a, du point de vue de partie civile, il l'a bien collé, quoi.
Ouais, bon. Il a fait ça bien.
Voilà.
Il a fini sur cette phrase quand même sublime. Je crois que c'était vraiment sa dernière phrase. Il s'est tourné vers les surveillants comme ça, après avoir dit qu'il avait mangé des choucroutes avec eux, tout, parce qu'il était vraiment dans un truc de connivence assez répugnant quand même. Et il a fini par dire, je tiens à dire merci à ces hommes et ces femmes, car ces hommes et ces femmes m'aident à croire en l'homme.
Ouais. Comme ça. C'est beau, hein.
Ah, c'était bas d'inter. Bon, voilà, et demain, donc c'est demain matin, c'est les réquisitions.
Et demain matin, réquisitoire des deux du gang bicéphale.
Du gang bicéphale dégueulasse, là.
Ouais. Et l'après-midi vont commencer les plaidoiries de la défense. Et qui se poursuivront donc mercredi. Je pense que demain après-midi, on va avoir, normalement, d'après ce qu'on a compris, les avocats de Sylvie, de Nadia et de Eugène. Ouais. Et le lendemain matin, on aura. Les deux avocats pour Omar, parce qu'ils vont être deux à plaider. L'Ombroso qui va réapparaître demain. Et
ça, on est bien curieux de voir son débarquement.
Ouais. Et puis ensuite, donc ça sera le tour de Delphine. Et avec l'explosion finale avec Bernard pour Christophe. Voilà. Jeudi matin, normalement, ça devrait être la parole aux accusés. Et après, c'est parti pour les délibérés. Et certainement un verdict jeudi soir, à moins que des plaidoiries qui durent plus que ça. Mais visiblement, on s'achemine vers quelque chose comme ça.
Et on peut peut-être quand même terminer sur la nouvelle punchline d'Omar, parce que Omar, c'est un punchliner quand même. Donc aujourd'hui, je crois que c'est Winter hein, qui dit à un moment. Mais bon, peut-être en fait, ce qu'il faudra dire, c'est qu'il faut supprimer les prisons, quoi. Et Omar, qui roupillait à peu près tranquillement dans le box depuis 1 heure et demie, il fait. Ouais, bah c'est peut-être ça qu'il faudra dire, ouais. Peut-être c'est peut-être ça qu'il faudra dire,
Et on est d'accord
ouais.
avec lui en tout cas.
Bah ça.